Oui, nous allons parler de la grâce ce matin. C'est un mot clé ici. Le texte commence par ce mot au chapitre 2. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été manifestée. C'est au chapitre 3. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été manifestée. Par cette simple phrase adressée à son jeune ami Tite qui implante des églises en Crète, Paul vient de raconter Noël, il vient de dire Noël. Noël dans ce qu'il a de plus beau, de plus fort et même de plus utile. Et nous allons le voir. Noël, c'est simplement le message de la grâce pour tous les hommes. C'est un mot que nous entendons tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, la grâce? La grâce, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'être, une manière de respirer la vie. C'est une certaine conception de Dieu, de ce qu'il offre et de ce qu'il attend. Et cela, la grâce, elle nous enseigne une certaine façon d'être en relation avec les êtres humains, avec tous, avec l'étranger en particulier, et de concevoir aussi notre propre existence. J'aimerais le dire comme ça, la grâce, c'est un art de vivre. Elle a été manifestée, nous dit Paul. Le mot « manifester » est très important. Vous savez, en français, il a donné un mot, le mot « épiphanie ». Manifestation, épiphanie. Ce qui, si on va encore plus dans le mot grec employé, ce qui pourrait signifier littéralement ce qui illumine les alentours. C'est beau, hein? L'épiphanie, ce qui illumine les alentours. La venue du Christ impacte de lumière nos alentours. Cette manifestation n'est pas seulement une descente d'en haut que seuls les plus spirituels, on dit les plus éveillés aujourd'hui, hein, d'entre nous pourraient capter. Non. La manifestation éclaire l'horizon de notre existence. Son impact est puissant. Il va au plus profond de nous-mêmes et il transforme notre rapport au monde, nos relations. Il oriente nos choix de vie. La manifestation. Ce mot-là se trouve à deux versets dans notre passage, le verset 11 du chapitre 2 et aussi au verset 4 du chapitre 3. Et Paul précise quel est le but de cette manifestation de la grâce. Le but, vous le lisez ici, on peut cliquer, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. L'amour de Dieu pour tous les hommes. Le mot grec qui est traduit ici est très connu en français. C'est le mot philanthropie. Dieu est un philanthrope. C'est ce qui est écrit. C'est une qualité chez lui, la philanthropie. Et Paul est formel. Dieu nous aime. Il n'arrive pas à se passer de nous. Cet amour est plus fort que lui. Et en plus, bonne nouvelle, il ne semble pas faire de tri. Paul précise que ce Dieu, atteint de philanthropie, aime tous les hommes. Son salut est pour tous. En Dieu se trouve la source du salut pour tous. Bien sûr, un verset comme ça nous fait interroger la doctrine de l'enfer. Comment un Dieu aussi plein d'amour pour toute notre humanité pourrait-il laisser perdre un seul cheveu de sa tête? Laissons cela au mystère de Dieu. Mais alors, si Noël, c'est l'affirmation de l'amour de Dieu pour tous les hommes, si nous sommes sauvés quoi qu'il arrive, à quoi peut-il servir de confesser notre foi? À quoi peut-il servir de prier, de témoigner, d'aider notre prochain, et même de prêcher cette bonne nouvelle, si Dieu a tout réglé, s'il est salut pour tous? Eh bien, la réponse se trouve au verset 8, on peut avancer. Cette parole est certaine. Au verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les bonnes œuvres. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Pourquoi prier ? Pourquoi donner de soi? Pourquoi s'engager? Parce que c'est beau et que c'est utile. Oui, juste parce que c'est beau et utile, nous dit Paul. Du coup, la vie chrétienne ne ressemble plus du tout à un devoir à accomplir. On vit et on agit non pas pour obéir, mais en cherchant à réaliser le beau geste. Et si possible, avec une certaine efficacité. Beau et utile. Donner de soi parce que c'est beau. Quelle magnifique traduction de la grâce dans la vie de tous les jours. Alors, certains d'entre nous ne sont pas très branchés esthétiques, pas très poètes, on va dire, mais qu'ils ne se sentent pas pour autant exclus, les pragmatiques. Ils peuvent se rabattre sur l'utile, Paul a tout prévu, pour vivre la grâce, sur l'efficace. C'est une vraie manière de rendre la grâce présente et agissante, être utile. Mais avant de poser ces gestes gracieux ou utiles, qui disent l'amour de Dieu pour tous les hommes, sœurs et frères, il y a un préalable. Pas une condition, un préalable. En amont de tout engagement de foi, il faut prendre le temps du questionnement de soi. Nous l'avons fait ce matin ensemble. La première chose que la grâce de Dieu nous invite à vivre, c'est d'avoir le courage, la simplicité, la sagesse aussi, de regarder en face ce qui est moche dans nos vies. Avant de faire du beau, il faut s'atteler à chasser ce qui est moche. Au verset 3 du chapitre 3, nous étions autrefois insensés, égarés, haineux. Vous voyez, la liste est longue. Nous étions moches. Notez que ce n'est pas la peur de Dieu ou la peur de l'enfer qui nous pousse à demander pardon, à implorer la grâce. Non, c'est l'œuvre de la grâce elle-même en nous qui nous pousse à faire cela. Elle nous apprend à faire la différence entre ce qui est beau et ce qui est moche en nous, la grâce. Entre ce qui a vocation à rester, à grandir, et ce qui a vocation à disparaître, à être abandonné. C'est ça, la grâce. Elle a un effet miroir. Nous voyons tel que nous sommes. En elle. Dans sa lumière, nous nous voyons comme nous sommes. Et sa puissance de transformation peut alors se mettre à l'œuvre et faire de nous, petit à petit, de belles créatures. C'est ainsi, sœurs et frères, chers amis, que Dieu nous sauve en Christ à Noël, par cette formidable, cette folle manifestation de sa bonté, de sa philanthropie. Nous sommes beaux et belles aux yeux de Dieu. C'est cela le message de Noël. Amen.